18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes jeudi 7 mai et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. Toute l'équipe de Radio U espère que vous allez bien. N'oubliez pas de porter un masque, mais surtout un casque pour nous écouter. Avec moi ce soir, on retrouve Bréwalan. Bonsoir.
Bonsoir Marion.
Et Pierre-Louis, bonsoir à toi aussi.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Au programme de ce soir, en deuxième partie de l'émission, on retrouvera l'interview que tu as faite, Pierre-Louis, avec Jérôme Chapchuk, du collectif pour une transition citoyenne en pays de Brest, pour parler du débat en ligne organisé ce soir à 20h05 sur l'après-Covid-19. Mais tout de suite, Bréwalan, tu as interviewé Camille Tabling de TICOP.
Tout à fait, Marion. TICOP, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un supermarché coopératif à Brest, en haut de la rue Jean Jaurès. Ça fait déjà 2 ans qu'à Radio U, nous suivons leurs aventures et leurs projets un peu uniques à Brest et dans le Finistère. Le 10 avril dernier, un peu retardé avec le confinement, ils ont enfin ouvert les portes de TICOP au 209 rue Jean Jaurès pour le bonheur des coopérateurs et des coopératrices. On écoute l'interview et on revient tout de suite après. Bonjour Camille Tabling, tu es présidente de la coopérative TICOP. En novembre dernier, nous avons reçu dans nos locaux à Radio U pour la quotidienne vos deux collègues Gaëtan et Amélie. Il et elle étaient venus nous présenter la réunion de souscription des parts sociales de la coopérative. Est-ce que à TICOP, vous avez eu le nombre de souscripteurs et souscriptrices que vous espériez pour le lancement un peu de TICOP?
Eh ben oui, en fait, bien plus même. On espérait avoir 200 coopérateurs au lancement. Et là, on est 340, donc c'est plutôt un très bon chiffre qui était bien au-delà de nos espérances.
Est-ce que peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas encore le principe fondamental de TICOP, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est TICOP ?
TICOP, c'est un supermarché coopératif qui s'est implanté dans le Haut-Jaurès, au 209 rue Jean Jaurès. Alors, un supermarché coopératif, c'est quoi ? C'est un supermarché dans lequel les clients sont des coopérateurs, ça veut dire qu'ils possèdent une partie du capital sous forme de part sociale, ils prennent part aux décisions stratégiques du magasin et ils assurent son bon fonctionnement en donnant 3 heures de leur temps par mois, c'est-à-dire en faisant la caisse, les tâches d'hygiène, en étant comptable. Pour faire ses courses à TICOP, il faut être coopérateur. Néanmoins, 2 personnes du foyer du coopérateur peuvent aussi venir faire leurs courses à TICOP. Donc par exemple, toi, si tu as 2 colocataires, tu peux être coopérateur et tes 2 colocataires peuvent venir faire leurs courses à TICOP sans effectuer les créneaux de travail. Et la deuxième chose, c'est qu'on a parlé du bio, du local, mais TICOP, c'est un supermarché comme un autre, en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire qu'on peut tout trouver, et surtout avec des prix différents, c'est-à-dire qu'il y a aussi des prix du conventionnel vendu à faible coût, pour que tout le monde puisse venir à TICOP. Et tout cela, ça nous permet d'avoir des charges moins lourdes. TICOP, c'est aussi un projet qui est non lucratif, ça veut dire que les bénéfices réalisés, ils sont réinvestis dans la coopérative. Et au final, on permet de créer du lien entre des personnes différentes, il y a un principe d'égalité, tous les membres sont mis sur sur le même pied d'égalité. Et ça permet aussi d'avoir des prix réduits, puisqu'on applique une marge fixe de 20%, hormis sur le frais, où on a une marge de 25% à cause des pertes qui sont susceptibles d'arriver.
Depuis plusieurs mois, on pouvait voir depuis la rue Jean Jaurès, l'évolution de votre supermarché. Donc vous le disiez, au 209 rue Jean Jaurès. Comment se sont passés les travaux ?
Alors les travaux, on a eu beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait au départ. Et heureusement, on a eu aussi une très grosse équipe de bénévoles pour faire ces travaux qui se sont ultra impliqués, qui étaient là tous les jours et qui ont fait un travail de dingue pendant 2-3 mois. Pour réaliser tous ces travaux. Moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup suivi, j'ai pas mis la main à la pâte sur ce sujet-là. Mais oui, c'est des bénévoles. Après, on avait aussi quand même des professionnels, faut pas les oublier. Il y a Bastien qui est électricien, qui a travaillé pour nous. Il y a Irving qui est plombier, qui a travaillé pour nous. Donc voilà, c'était quand même des gens qui s'y connaissaient, mais tous les coopérateurs qui voulaient faire un petit peu de menuiserie, travailler les meubles qui étaient en construction, ont pu participer aux travaux.
L'ouverture donc, du supermarché était prévue le 23 mars dernier, si je ne me trompe pas. Et avec la mise en place du confinement, cette ouverture n'a pas pu se faire. Comment vous avez géré cette contrainte en pleine ouverture du supermarché pour vos livraisons, pour voilà, toute l'organisation interne?
Alors en fait, aujourd'hui, on est tous bénévoles. Donc quand la crise est arrivée, on était un petit peu perdus, comme tout le monde. Hein, on savait pas trop... Et puis surtout, on se sentait pas capable. Donc il y avait plusieurs problèmes, c'est qu'on savait pas si on pouvait être livré sur nos produits qu'on n'avait pas encore reçus, d'une part. Et ensuite, comme je l'ai dit, le magasin, il fonctionne que grâce aux bénévoles qui travaillent 3 heures par mois dans le magasin. Et donc nous, on se sentait pas en fait de demander aux coopérateurs de venir dans le magasin faire leurs 3 heures. Aussi parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir mettre en place les gestes barrières dans un moment d'ouverture qui nous demandait beaucoup de calage, quoi. Enfin, par exemple à la caisse, parfois on a besoin d'être 3 pour comprendre ce qui se passe à la caisse, donc la distance de sécurité elle n'est pas du tout respectée. Donc on a préféré reporter cette ouverture dans un premier temps parce qu'on n'était pas prêt, voilà, pour ouvrir dans ces conditions-là. Et ensuite, on a appris qu'il y avait des producteurs locaux qui avaient du mal à écouler leur stock. Et là, on s'est dit que ce confinement, ça pouvait nous permettre de les aider, parce que nous, on avait un local pour leur permettre... Un local et aussi 300 personnes, hein, 300 personnes à qui vendre ce stock-là. Donc, on a travaillé avec Prélude, on a travaillé avec Trayon de Billon sur des ventes des précommandes. Et petit à petit, en fait, ça nous a permis, voilà, d'ouvrir petit à petit. C'est-à-dire, on a commencé par ces précommandes, puis on a reçu les produits en épicerie. Et aujourd'hui, on a arrêté les précommandes et on est encore sur des créneaux bénévoles. Ça veut dire que c'est les coopérateurs qui décident ou non de faire leurs créneaux. Mais on pense, là, il y a un sondage en cours au sein de la coopérative, mais on va très certainement lancer les créneaux obligatoires. À partir du 18 mai.
Au final, vous avez pu ouvrir Ticop le 10 avril dernier. Ça a été une grande satisfaction, je me doute, pour toute l'équipe militante, après 3 ans de réflexion et de travail pour en arriver là.
C'était émouvant, c'est vrai. Après, c'était... c'est aussi prendre conscience de toutes les tâches qu'on avait imaginées, parce qu'aucun de nous n'est professionnel dans le secteur des supermarchés, quoi. Donc... La caisse, ça a été une drôle d'affaire, quoi. Avec vraiment, les coopérateurs ont été très patients parce qu'il y avait plus d'une heure de queue le premier jour, je crois. Mais voilà, c'était à la fois émouvant et en même temps sportif, disons.
Et aujourd'hui, tout est prêt dans le magasin. Il ne manque rien au bon fonctionnement. Tout est prêt pour accueillir les coopérateurs, les coopératrices.
Tout est prêt. Alors, on n'a pas reçu encore tous nos produits. Toutes nos références, on en a quand même beaucoup, hein. C'est-à-dire que la plupart, vous pouvez acheter la plupart des choses à Ticop. On a quand même eu un problème avec la chambre froide qui est restée bloquée à la frontière, donc ça nous a obligé à réduire la gamme de produits, enfin de légumes proposés en fait. Elle n'est pas encore arrivée, elle arrive le 25 mai. Et voilà, on attend encore des produits.
Tu le disais tout à l'heure, Ticop, c'est un supermarché coopératif. Ce sont les coopérateurs et les coopératrices qui participent à l'activité courante du supermarché. Là, pendant la situation sanitaire actuelle, comment vous êtes organisé pour à la fois respecter les règles sanitaires? Est-ce que vous avez eu des problèmes, des difficultés à ce que les bénévoles viennent aider du fait du confinement, par exemple?
Alors, on a eu une trentaine de bénévoles... qui sont encore très impliqués dans le magasin aujourd'hui, qui viennent plusieurs fois par semaine faire des créneaux de travail. Donc, ça n'a pas été difficile du tout de trouver du monde pour faire ces créneaux. Au contraire, hein, d'ailleurs, parce que souvent, ils étaient pris d'assaut, les créneaux, et donc, on a dû refuser du monde. Je pense que les gens étaient très contents, voilà, de pouvoir sortir de chez eux aussi pour faire ça. Après, sur les mesures d'hygiène, on a eu beaucoup de dons de masques, de la part des coopérateurs, donc des masques faits maison pour la plupart. On a dû travailler sur le vrac parce qu'au départ on avait prévu que chacun puisse se servir, puis finalement à cause du Covid, il y a un coopérateur qui est dédié à cette tâche-là. Et puis après on a été aidé par des coopérateurs qui s'y connaissaient un petit peu pour mettre en place le lavage des mains, des marquages au sol pour respecter les distances. Après sur les coopérateurs coopératrices, en fait on se rend compte que il y en a suffisamment qui viennent pour effectuer les créneaux, mais sur les clients, on va dire, il y a moins d'un tiers des coopérateurs qui sont venus à TICOP faire leurs courses sur le dernier mois, là, depuis que c'est ouvert. On a lancé un sondage hier, je crois, ou avant-hier, en demandant si les coopérateurs étaient d'accord pour qu'on lance des créneaux obligatoires avec possibilité de demander une dispense à cause de la crise sanitaire. Et il y a à peu près 20%, entre 15 et 20% de coopérateurs qui ont demandé à ne pas faire leur créneau de travail. Soit parce qu'ils se sentaient fragiles, soit parce qu'ils gardaient des enfants. Voilà, donc globalement, les coopérateurs sont plutôt prêts à venir au magasin.
Et aujourd'hui, vous êtes combien de coopérateurs, de coopératrices à TICOP ?
Eh bien, j'ai regardé ce matin, ça fait 343 coopérateurs et coopératrices.
Et c'est suffisant pour le fonctionnement de TICOP, soit pour l'organisation du supermarché, mais aussi financièrement pour se retrouver financièrement ?
Financièrement, c'est sûr que on a, comme tout le monde, la crise nous a un petit peu coûté. C'est-à-dire que on n'est pas, par rapport aux gens de, alors moi je m'occupe pas trop de ça, hein, mais y a un petit décalage dans le temps parce que on se rend compte que les courses, finalement, c'est souvent les coopérateurs qui font leurs créneaux, qui en profitent pour faire leurs courses. Donc là, comme il y a eu très peu de personnes qui travaillaient au magasin, il y a eu moins d'achats aussi. Mais sinon, 343, c'est suffisant par rapport aux horaires qu'on a déterminés. Mais on peut être beaucoup plus, donc venez. Il n'y a pas de souci, ça nous permettra d'ouvrir plus. Aujourd'hui, on n'a pas des horaires classiques de magasin, c'est-à-dire qu'on n'est pas ouvert tous les jours de 10h à 20h.
Tu viens de le dire, elles sont encore ouvertes, les souscriptions à la coopérative. Et si oui, comment un auditeur ou une auditrice doit faire et peut faire pour devenir coopérateur ou coopératrice à TICOP ?
Ah oui, elles sont encore possibles grâce à la commission communication qui a mis en place des réunions de souscription en visio. Donc si vous voulez devenir coopérateur aujourd'hui, il faut écrire à communication@ticop.fr en demandant à participer à une réunion de souscription.
L'un des principes forts de TICOP, c'est de pouvoir proposer des produits locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de la part de produits locaux dans vos rayons ou bien vous travaillez encore avec des producteurs et productrices sur le pays de Brest pour aller plus loin sur le fait de proposer des produits locaux ?
Alors, pareil, je suis désolée, je dis souvent que je sais pas. Il y a la commission achat qui travaille beaucoup, enfin qui travaille en fait sur ces questions-là. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont déterminé 900 références de produits, qu'un produit peut être décliné sur 4 gammes, en vrac bio, en conditionné bio ou local, en conventionnel ou en tarif économique. Le problème, c'est que, enfin, il y a des petits producteurs, donc on a déjà parlé, Trinviant, puis plein d'autres, en fait. Mais on n'était pas capable, en termes de livraison, de gérer 400 livraisons par semaine. Donc, on commence par quelques petits producteurs, mais l'objectif, c'est en effet d'en proposer de plus en plus à terme.
Enfin, lundi 11 mai, une partie du déconfinement est prévue. Est-ce que vous, à TICOP, ça va changer quelque chose pour votre organisation, pour l'ouverture aux coopérateurs et coopératrices, ou pas du tout, ça va un peu rester sur le même fonctionnement, il va pas y avoir de grands changements.
La semaine du 11 mai, il y aura pas de grands changements, c'est-à-dire que c'est toujours des volontaires qui viennent faire leur créneau. On espère qu'il y aura un changement du côté des coopérateurs clients, c'est-à-dire qu'ils seront plus nombreux. Et après, nous, c'est surtout à partir du 18 que ça va changer si les créneaux deviennent obligatoires, où là, on va quand même avoir, tous les coopérateurs vont devoir faire leur créneau de 3 heures.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci pour le temps pris.
Merci à Camille Tabling de TICOP. Si vous voulez être informé de toutes leurs actualités, n'hésitez pas à les suivre sur leur page Facebook. L'association de défense des droits des femmes En Avant Toutes a lancé le chat « Comment on s'aime ?». 4 femmes assurent une écoute 7 jours sur 7, de 10h à 21h, pour accompagner les femmes de victimes de violences conjugales. Plus d'infos sur le site commentonsaime.fr. Et on continue avec l'interview du collectif pour une transition citoyenne en pays de Brest, juste après le titre Shoot Me du groupe Rendez-vous.
Oh,
Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites, spécial confinement. C'était le groupe Rendez-vous et leur titre Shoot Me.
Et si on réfléchissait à l'après-Covid, à savoir ce qu'on pourrait imaginer comme solution, éventuellement quels enseignements on pourrait tirer, eh bien c'est ce que vous propose ce soir à partir de 20h05, le tout en visioconférence, le collectif pour une transition citoyenne en Pays de Brest. On va écouter l'interview que j'ai réalisée il y a quelques jours avec Jérôme Savtchuk. On espère que ce débat apportera de nouvelles idées et peut-être réfléchir à une nouvelle société. Je suis en communication avec Jérôme Savtchuk du collectif pour une transition citoyenne en Pays de Brest. Bonjour.
Bonjour.
Alors le collectif, si mes informations sont bonnes, existe depuis 2014 à Brest et en fait partie d'un collectif un peu plus grand au niveau national. Le but, c'est de faire du lien entre les initiatives de transition sociale, écologique, économique et humaine. L'idée, en fait, c'est de repenser la société, non ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment de se dire qu'il y a plein d'initiatives qui sont faites un peu individuellement et que tous ensemble, voilà, nous on pense que le pouvoir citoyen, le pouvoir d'initiative des citoyens est clairement la solution pour faire changer la société vers plus d'écologie, plus de solidarité, plus de démocratie aussi. Donc c'est un peu l'état d'esprit de ce collectif.
Et alors, comment on s'y prend ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'initiatives ?
Alors, ça a commencé en effet donc en 2014. C'est en 2013 qu'il y a eu un appel national du collectif Transition au niveau national qui regroupe plein d'associations comme je crois qu'il y a les Colibris, la Nef, voilà, plein d'associations qui et de structures, alors c'est pas que des associations, ça peut être aussi des entreprises, des scopes. Et donc nous concrètement, comment on a commencé cela, ça a été premièrement participer à la journée du collectif Transition Nationale qui s'appelait Journée de la Transition au début et qui avait lieu en septembre au moment de la Foire Saint-Michel. Donc on tenait un stand à la Foire Saint-Michel où on essayait de présenter justement les différentes initiatives qui avaient envie de participer. Donc on avait souvent des petits stands avec des affichages. On avait fait des portraits aussi de personnes qui mettaient en avant comment concrètement ils mettaient en œuvre la transition, soit en changeant de fournisseur d'électricité, soit en appliquant une pédagogie différente. Donc on avait fait des portraits et on les présentait à la Foire Saint-Michel. Donc ça c'était au début. Après on a organisé aussi des forums ouverts, donc l'idée vraiment d'essayer d'avancer, d'agir concrètement, donc en faisant émerger des sujets, en essayant de mettre en œuvre des actions après pour avancer. Donc ça s'est concrétisé par des actions comme des donneries, donc l'idée de repenser un peu le rapport à l'achat. Donc il y a différentes manières d'échanger des biens et le don c'est une manière aussi de repenser le rapport à l'argent, à la propriété. Et lors des forums, l'idée c'était vraiment de se faire rencontrer les gens pour éviter que chacun travaille dans son coin sur un même sujet. Voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui fonctionnent en parallèle. Et donc on a mis en place un site internet où l'objectif était aussi de centraliser un peu les initiatives. Donc c'est le site transitioncitoyennebrest.info qui fonctionne depuis quelques années maintenant. Et c'est un site collaboratif, chacun peut y apporter des informations.
Et alors, en Pays de Brest, vous pouvez nous donner des exemples d'associations, d'entreprises qui participent à ce collectif ?
Alors, pour l'instant, c'est plutôt un collectif de personnes, mais évidemment, on fait lien avec des structures. Donc, on a organisé à l'échelle du Pays de Brest, nous, on est plutôt centré sur la ville de Brest, mais à l'échelle du Pays de Brest, il y a différents collectifs transition. Et donc le collectif a organisé des rassemblements dans différents secteurs. Je crois qu'il y en avait eu un à Daoulas. Donc il y a d'autres collectifs transition qui existent. Donc il y avait aussi l'idée de fédérer un peu ces initiatives. Après nous on fait le lien avec des associations qu'on connaît. Brest à pied à vélo et Hall. Donc l'idée aussi c'est de mettre en avant ce qu'ils font et sans qu'ils soient forcément adhérents parce que c'est pas un collectif d'associations. C'est plutôt un collectif de personnes. Mais après pourquoi pas à terme aussi intégrer des associations.
Alors, ce jeudi à 20h05, vous organisez un débat. L'après-Covid, parlons-en. L'objectif, c'est de tirer des enseignements, de voir ce qu'il y a eu de positif, en fait, dans ce qu'on appelle une crise, enfin, plutôt cette pandémie et cette période de confinement.
Alors, je sais pas si le but, c'est de voir ce qui a été positif, mais c'est au moins surtout de voir comment on peut ne pas faire en sorte de ne pas repartir directement dans un monde de la consommation, voilà. Donc l'exemple des déplacements est un bon exemple, hein, sur la question du transport aérien qui s'est arrêté du jour au lendemain. Donc peut-être éviter de repartir dans une trajectoire où les déplacements se font de manière un peu irresponsable. Et c'est vrai que la réouverture de la ligne Paris-Brest, par exemple, pose question. Alors c'est vrai qu'on est en train, ça peut être un peu long d'aller à Paris, mais est-ce que c'est l'urgence absolue, notamment dans une période où il y a une épidémie avec des problèmes de diffusion de maladies, de rouvrir une ligne aérienne? Ça, on se pose la question.
J'imagine qu'il y a aussi la question de la voiture. Là, certains experts prévoient un pic de pollution le 11 mai avec le retour de la voiture. La problématique du covoiturage aussi, qui va peut-être moins tenter certaines personnes à la suite du Covid. C'est aussi ces questions-là.
De toute façon, ce sera assez ouvert. Hein. C'est sûr que le rebond de l'automobile, on le voit déjà. De toute façon, là, depuis une semaine, ça a commencé à repartir. Et alors, il y a des. C'est vrai qu'on voit qu'au niveau national, il y a eu quand même des initiatives intéressantes là en faveur du vélo, notamment. Là, la ministre Elisabeth Borne a annoncé des choses intéressantes là pour faciliter notamment la réparation des vélos dans les ateliers. Donc, il y a des chèques de réparation qui vont être mis en place à partir de la semaine prochaine. Donc, il y a des initiatives qui sont prises. On parle aussi d'urbanisme tactique. Donc, l'idée, c'est de mettre des axes temporaires pour les vélos. Donc, nous, on espère que ça va se mettre en place. À Brest, normalement, il y a des discussions qui sont en cours. Donc, on va pouvoir aussi discuter de tout cela. Après, on va sûrement plus recentrer la question sur la question du local, de l'autonomie des territoires, parce qu'on s'est bien rendu compte avec cette crise aussi que on est dépendant de marchés internationaux et que il faut peut-être repenser l'activité, la production pour justement être plus résilient face aux crises.
C'est aussi un des slogans, mais plutôt une des idées phares de ce collectif, j'imagine, c'est recentrer vers le local.
Tout à fait. De toute façon, l'idée globale, c'est de minimiser les dépenses d'énergie, aussi d'être plus près de l'humain. Donc, plus on travaillera en local, plus on favorisera les producteurs locaux. Pour ça, on a l'exemple de la monnaie locale, qui est un très bel exemple, hein, de favoriser à travers l'usage d'une monnaie locale les producteurs locaux. C'est-à-dire que quand on paye avec une monnaie particulière, que ça puisse avoir un effet bénéfique sur les territoires, c'est vraiment intéressant. Comme si c'était un label, en fait. Donc la monnaie locale qui s'appelle l'éole en Pays de Brest, c'est clair qu'on est vraiment dans ces idées-là de projets qui démarrent, hein, parce que la monnaie locale, ça a été lancé il y a quelques années, mais je pense qu'on a aujourd'hui, c'est le moment peut-être justement de passer à une échelle supérieure et de faire en sorte que ces initiatives qui sont encore un peu en marge deviennent prennent un peu le devant sur l'économie classique.
Alors sur le débat en lui-même, vous avez déjà des gens qui sont inscrits, pour l'instant ça fonctionne plutôt bien.
Alors c'est pas moi qui fais inscription, mais on a eu quelques, on a dû avoir quelques retours. Après c'est vrai qu'avec le problème des visioconférences, c'est qu'aujourd'hui c'est pas toujours évident de s'organiser. Donc on espère au moins être Après d'un côté faut mieux pas qu'on soit trop nombreux, parce qu'un débat à plus de 30 personnes, ça commence à être compliqué. Mais je pense qu'on sera au moins une 15-20 pour le débat. Là, on aura en introduction Michel Briand qui nous parlera en fait de ce qui s'appelle Riposte Créative. Donc, ils ont mis en place un inventaire des initiatives qui étaient mises en place pendant la crise, initiative locale justement de solidarité. Et donc on est bien dans notre rôle aussi de mettre en avant ce qui se fait, les initiatives, et ça permettra en fait de lancer un peu le débat. Après, l'objectif de ce débat, c'est aussi de voir à plus, enfin à moyen terme, d'organiser un événement. Donc, comme on a pu faire par le passé, hein, ce qu'on appellera un forum de la transition, où justement il y aura cette thématique de l'après-Covid, de voir comment. Alors, l'idée serait peut-être plus à l'automne d'organiser un événement qui rassemble les acteurs de la transition, et on pourra voir justement déjà ce qui s'est passé depuis la fin du confinement, et voilà comment fédérer et mettre en œuvre des projets concrets de transition avec les habitants.
Oui, il va peut-être aussi falloir s'appuyer sur des habitudes qu'on a prises ou reprises pendant le confinement. On parlait de moins circuler tout à l'heure, se recentrer vers le local, peut-être, je sais pas, prendre de manière générale plus de temps, se tourner vers les jardins partagés, etc., ce type de choses.
Oui, voilà. Alors surtout, c'est clair que la question de la mobilité, elle a été complètement repensée là, pendant ces. Surtout, moi, j'ai pu voir autour de chez moi là des voisins qui se sont mis à ne plus utiliser leur voiture et à aller aux commerces locaux, à aller au marché. Voilà. Bon, heureusement, il y a eu des marchés qui ont pu continuer à fonctionner grâce à du drive. Le marché bio a pu réouvrir le mardi là à Quérinou, mais. On voit qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas encore fait le pas de tenter un autre mode de vie, là, ont pu expérimenter justement c'était quoi de ne plus utiliser la voiture tous les jours. Et j'espère en tout cas que ça va donner envie à des gens de faire les choses autrement. Après, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. On va pas non plus demander aux gens qui habitent à l'autre bout du pays de Brest de venir en vélo tous les jours. Après, il y en a qui le font quand même. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une opportunité là de s'appuyer sur l'expérience qu'ont fait les gens pour voir les choses un peu différemment. On voit aussi que le bio a pas mal progressé là pendant ce confinement. Les gens se sont fait plus attention à leur alimentation vu qu'ils passaient plus de temps à la maison. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens.
Oui, on sent que l'idée générale, c'est bien de proposer, pas de dénoncer, de montrer du doigt.
Après, on peut quand même dénoncer certaines choses. Hein. C'est sûr que si on prend l'exemple des liaisons aériennes, après, en effet, on est plus dans une optique de montrer ce qui marche plutôt que ce qui marche pas. C'est plutôt l'idée d'être dans le positif. Après, il faut quand même des fois, voilà, on a dans le passé, le collectif Transition a déjà dénoncé certaines choses. Par exemple, quand la mairie avait mis en place le stationnement gratuit le samedi matin. Nous, on trouve que c'était vraiment pas une bonne idée. On espère qu'ils vont pas recommencer. On voit que plusieurs villes sont en train de refaire ça en disant que c'est une manière de relancer l'activité locale. Mais clairement, mettre du stationnement gratuit pour les voitures, ce n'est pour nous pas la solution. Et surtout à Brest, où c'est déjà assez facile de se garer. Il faudrait pas, en effet, qu'il y ait une sorte de rebond de l'automobile qui casse un peu toute la dynamique qui avait commencé à se mettre en place.
Oui, c'est vrai que c'est un peu le risque, et d'ailleurs c'est la réflexion que beaucoup de personnes ont par rapport à la fin de ce confinement, c'est est-ce qu'on va retenir des leçons ou est-ce qu'on va retourner dans nos mauvaises habitudes.
C'est vrai que surtout quand on voit que l'État finance Air France, voilà, on a l'impression que le système économique va essayer de sauver. Après, c'est sûr qu'il y a des emplois derrière, donc on va pas non plus souhaiter la fin des compagnies aériennes, mais en même temps, peut-être qu'il faut mieux aujourd'hui. Alors, j'avais l'exemple d'un garage automobile qui avait décidé pendant le confinement de passer à la réparation de vélos. Donc voilà, il y a des transitions intéressantes qui se font comme ça. Donc essayons de favoriser cela. On voit que c'est sûr que le marché du vélo va certainement repartir de plus belle, et tant mieux, et ça va créer aussi des emplois. Donc voilà, il n'y a pas que des emplois dans l'automobile, il y a aussi des emplois dans d'autres systèmes de mobilité.
Si on veut aller plus loin dans cette discussion, donc participer ou suivre le débat, comment on fait? Il faut s'inscrire?
Oui, donc alors je me rappelle plus exactement l'adresse du site internet, mais en gros le plus simple c'est d'envoyer un mail au mail de transition brest.transition@net-c.com, donc brest.transition@net-c.com. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour participer, comme ça on vous enverra le lien vers la conférence. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aussi m'appeler au téléphone. Donc moi c'est 06 87 50 82 86. 06 87 50 82 86. Donc le jour même, on enverra le lien aux participants et donc on pourra se connecter. Donc on va utiliser un outil de visioconférence qui permet de voir tout le monde en même temps et de gérer les micros. Bon, ça sera un peu une première pour nous, donc on espère que ça va bien se passer. Mais on s'est dit, parce qu'on a réfléchi à le faire plutôt après le déconfinement, mais en même temps, c'est le moment d'y penser à l'après-déconfinement, donc il valait mieux le faire maintenant qu'attendre un petit peu.
Et est-ce qu'il sera possible de suivre cette visioconférence en simple spectateur ?
Ah oui, tout à fait, oui. Il y a pas de, on va pas forcer les gens à participer, donc si les gens se connectent, ils peuvent très bien ne pas prendre la parole, ou alors il y aura un chat pour ceux qui veulent juste poser une question par écrit sans forcément prendre la parole. C'est vrai que bon, après on essaiera de mettre en place une méthode d'animation, voilà, pour justement essayer de faire parler tous ceux qui le souhaitent. C'est vrai que ça, c'est aussi des choses dont on se rend compte, c'est que la manière dont on anime une réunion, c'est très important aussi pour faire participer les gens. Il faut arrêter dans la vision très verticale où il y a une personne qui parle et les autres qui écoutent. Là, dans le collectif Transition, on essaie de plus prôner justement l'intelligence collective.
Et alors, si on veut s'engager et qu'on n'a pas forcément le temps ce jeudi de suivre le débat, j'imagine qu'on vous retrouve sur votre site internet et on vous contacte pour voir ce qu'il est possible de faire.
Donc, on a une liste de diffusion qui permet d'être au courant des activités de l'association. Donc, on est une association aussi, donc c'est possible d'adhérer à l'association sur Hello Asso. Et donc voilà, après nous on fait des réunions mensuelles, donc normalement c'était au BH Café, si je me rappelle bien c'est les premiers samedis du mois, donc j'espère qu'on va pouvoir les reprendre prochainement. Et après, ceux qui ont envie de s'investir un peu plus, on a ce qu'on appelle un groupe de travail où les gens qui ont envie justement de participer au projet peuvent s'investir. Donc, il faut juste faire la demande et c'est ouvert. Après, il faut adhérer à l'association quand même à un moment. Mais voilà, en tout cas, c'est un collectif assez ouvert. L'idée justement, c'est de faire en fonction de l'envie des gens. Donc, si des gens ont envie de porter un projet, on est prêt en tout cas à accompagner les personnes dans ces projets.
Eh bien, merci beaucoup, Jérôme, et bon débat.
Ben, merci bien. À bientôt.
À bientôt.
Merci pour votre invitation. Au revoir.
Merci à Jérôme Savchuk. Retrouvez toutes les informations sur ce collectif sur leur page Facebook. Et pour le lab de ce soir, rendez-vous sur brest.transition@net-c.com. C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau format. Retrouvez cette émission en podcast sur le site internet de Radio U, ainsi que toutes les autres émissions de la radio. On se retrouve jeudi prochain à 18h, toujours sur le 101.fm, et en attendant, amusez-vous bien.